vous remercie de m'avoir invité ici aujourd'hui pour passer quelques réflexions sur ce passage. Je dois vous avertir tout de suite que ce n'est pas une prédication comme telle, mais plutôt les réflexions assez personnelles de ce qui sort pour moi de ces quelques versets. Et aussi, pour vrai dire, quand j'ai reçu comme texte ces 6 versets, j'ai été un petit peu surprise parce que, en quelque sorte, quand je lis un texte et quand je prépare une méditation, la première question que je me pose, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui me parle à moi? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui me permet de formuler un pensée, un message, une méditation qui vaut la peine de transmettre? Et ce passage-là, j'avais toujours vu ça comme un préalable au texte qui suit, la rencontre avec la femme de la Samarie. Et donc, quelques petits mots d'introduction, sans grande, nécessairement, sans grande contexte ou importance. Donc, merci de m'avoir invité à m'arrêter à ce texte-là et de creuser un petit peu plus là-dedans. Parce qu'en creusant, on voit quand même qu'il y a quelques petits éléments qui ont de l'intérêt pour chaque personne qui veut suivre de façon fidèle les pas de Jésus. Premièrement, le texte suit directement à un passage à la fin du chapitre 3 où les disciples de Jean s'inquiètent du fait que c'est clair que Jésus et ses disciples baptisent plus de personnes que Jean. On s'inquiète. On se dit, mais tiens, est-ce que Jésus est en croissant et nous, on est en diminuant? Et c'est carrément ça que Jean dit à ses disciples que inquiète-toi pas que Jésus prend de la place et que moi je diminue parce qu'il faut que ça soit le cas, parce que c'est Jésus qui incarne Dieu ici avec nous. Ça, pour le contexte. Il y a déjà entre les disciples de Christ, peut-être pas un conflit, mais un contexte de concurrence, de compétition, d'inquiétude par rapport à qui a la place devant le monde. Deuxième chose, les pharisiens sont au courant du fait que les disciples de Jésus, ou Jésus selon eux, baptisent plus de monde que Jean. Et on lit dans ce texte que Jésus, en se rendant compte du fait que les pharisiens sont un peu, ont les yeux sur lui, il dit, dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans dans l'attitude des pharisiens qui fait que Jésus décide de quitter ces lieux-là en Judée pour traverser la Samarie, pour retourner chez lui en Galilée? Une des possibilités, c'est qu'il ne veut pas provoquer une confrontation avec les pharisiens avant le temps qui s'en vient éventuellement. Ça, c'est une des possibilités. Mais l'autre possibilité, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas dans l'esprit de Jésus, peut-être une certaine, peut-être pas une déception, sûrement pas un désespoir, mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un élément de déception, de détresse, du fait que on se pose la question, qui est le plus important, qui est le plus fort, qui est le plus fidèle? On dit dans le verset 4, « Or, il lui fallait traverser la Samarie. » En effet, ce n'est pas vrai. il n'était pas obligé de traverser la Samarie. Il aurait pu prendre le chemin en traversant le Jourdain, la rivière Jourdain, pour traverser un terre qui lui permettait de se rendre en Galilée sans passer par la Samarie. Et c'est un peu étrange. En passant de l'autre côté du Jourdain, qui était apparemment le trajet préféré des Juifs pratiquants, parce qu'on ne voulait pas carrément traverser la Samarie. En passant par l'autre côté, on passe par un pays des non-juifs. Et on préférait ça, côtoyer les non-juifs, que côtoyer les Samaritains qui étaient presque juifs, pas tout à fait, pas très fidèles à ce qu'on croyait comme chemin à suivre. Et je pense dans cela, cette indication que Jésus a choisi de traverser la Samarie, il y a quand même un message pour nous tous, surtout cette semaine de l'unité chrétienne. Dans ma propre vie, j'ai souvent expérimenté les moments quand je me suis dit, tiens, tu sais, c'est plus facile de vivre avec les gens qui ne partagent pas ma foi chrétienne dans un sens très large, que de trouver une zone de confort avec d'autres chrétiens qui sont très différents, qui ont une vision de la fidélité qui est très différente que le mien. Pourquoi? Je pense en partie passer dans le pays des non-juifs est plus facile dans un sens. On sait qui on est, on a une identité, on sait qui sont les autres, ils ont une identité, on est capable de vivre avec ça. Quand on passe par la Samarie, quand on passe à travers les gens qui sont presque comme nous, mais pas tout à fait, notre propre identité, notre propre sens de qui on est, notre propre sens de qu'est-ce que c'est la fidélité, comment mieux suivre le message de Christ, comment mieux vivre le message de Christ, est parfois un peu plus compliqué. Parce qu'on cherche tous à être fidèles, qu'on soit catholique, qu'on soit orthodoxe, qu'on soit protestante, anglicane, luthérien, mennonite. Mais on a une vision différente chacun. On a des formes, des façons différentes chacune. Et là, il y a une complexité. Là, il y a un besoin de nuance, de sensibilité, de respect, qui n'est pas toujours facile. Je pense que le défi dans ce texte est carrément là. On trouve les moyens de traverser la Samarie ensemble, d'apprendre l'un de l'autre, des deux côtés, des trois côtés, des quatre côtés, d'être capable d'entendre le mot de Jésus qu'on va entendre peut-être dans quelques jours de sa réponse à la femme de Samarie. En effet, là où on loue Dieu, n'est pas ici, n'est pas là, n'est pas sous cette forme, mais ici, dans la fidélité interne de notre volonté de suivre étroitement ce chemin que Jésus défrait pour nous. Encore, je vous remercie de m'avoir invité. J'espère que je ne vous ai pas trop déçu de mon message. Et je vous encourage à suivre cette semaine vos propres réflexions sur ce que ça veut dire chercher l'unité en Christ. Merci.